Voilà, bonsoir à chacun. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 5. On va lire quelques bonnes paroles que Jésus a prononcées, qu'on a surnommées le serment sur la montagne. C'est des paroles qu'on connaît peut-être trop bien, et c'est important qu'on y revienne peut-être ce soir. C'est ce qu'on va faire. Matthieu, chapitre 5. Matthieu chapitre 5, donc le verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Heureux, heureux, heureux. Vous remarquerez que l'Ancien Testament se finit pas par cette notion-là d'être heureux. L'Ancien Testament, c'est dans Malachi, il est question que si on ne met pas en pratique tout ce qui vient d'être dit, on pourrait dire toute la loi de Moïse, eh bien le pays sera frappé d'interdits. C'est ça les derniers termes de l'Ancien Testament. Et quand on connaît ce de quoi il est composé, on sait que Moïse a reçu du Seigneur toutes sortes d'ordres et de commandements. Tu ne feras pas cela, tu feras ceci. Et on voit que la manière dont Jésus a apporté la parole de Dieu, lui, ça a été quelque chose de totalement différent quand même. Il a voulu tourner la page entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la nouvelle alliance que Jésus allait proposer aux hommes. Heureux. Et il commence par dire ces choses-là. Et il nous donne simplement la liste pour être heureux. Simplement la liste pour connaître le véritable bonheur. Et on sait que dans ce monde, tout le monde veut connaître le bonheur. Et on sait que dans ce monde, on croit que pour connaître le bonheur, il faut s'arrêter. Et les Grecs, à l'époque, ils pensaient la même chose, que c'est dans les choses matérielles qu'on va trouver le bonheur. C'est dans les choses que l'on voit, c'est en ayant beaucoup d'argent, en ayant beaucoup de bonnes relations avec les personnes. C'est dans ces choses-là qu'on va trouver le bonheur. C'est en ayant tout le bien-être matériel, c'est ça qui va nous apporter le bonheur. C'est ça notre compréhension du bonheur. Et ceux à qui Jésus s'adresse à l'époque, ils avaient aussi cette compréhension-là. Ils croyaient que c'était les riches qui étaient heureux. Et les Grecs, quant à eux, croyaient que ceux qui étaient heureux, c'était les dieux. Leurs dieux, parce qu'ils n'avaient aucune limite. Tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils désiraient, ils pouvaient l'avoir. Et dans leur sens, dans leur compréhension du moins, c'était ça qui croyaient que c'était le bonheur. Et Jésus nous propose totalement autre chose. Quand on regarde précisément tout ce qu'il est dit, heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui sont persécutés. On se rend compte que ce n'est pas forcément ceux qu'on aurait mis, nous, sur la liste pour avoir le bonheur. C'est peut-être même les dernières choses qu'on aurait mises, ou les choses qu'on aurait mises sur la liste pour être malheureux. Et pourtant, Jésus, lui, il a dit, c'est en passant par ces cases-là que l'on peut accéder au vrai bonheur. Et quand on étudie de près le mot « heureux », on peut le remplacer quasiment comme un synonyme « béni ». Il y a une bénédiction. Et ce soir, je voudrais simplement vous partager trois bénédictions qui se recoupent. Mais trois de ces termes heureux, et les trois premiers d'ailleurs. Et en réfléchissant en tout cas sur cette chose, sur cette chose-là, que le bonheur est accessible, que le bonheur s'apparente aux yeux à la bénédiction, je réfléchissais que ce n'est pas seulement un état passager, c'est pas seulement un bonheur succinct, c'est pas seulement quelque chose que l'on a dans des bonnes circonstances et puis après qui s'en va. La bénédiction de Dieu, le bonheur de Dieu, c'est quelque chose qui est comme un fleuve et qui coule continuellement. Et j'avais cette image, je relisais cette histoire. C'était un homme qui est perdu dans le désert. Un homme qui est perdu dans le désert et ça fait plusieurs jours, des heures entières qu'il passe à marcher, il ne sait pas où il va, et il est fatigué, il commence à se déshydrater, il commence à avoir la fièvre à cause du soleil, et le peu de temps où il arrive à dormir, la seule chose qui l'omnibule dans ses pensées, c'est qu'il a faim ou qu'il a soif. Alors il rêve d'eau, il rêve de nourriture, il rêve de tout ça. Et puis il se réveille, mais il a pas bien dormi forcément, et malheureusement il essaye d'avancer comme il peut, il n'en peut plus. Alors il avance et puis tout à coup il voit au loin un oasis. Mais là il est tellement touché dans son corps par la soif, touché par la faim, qu'il il remet en question ce qu'il voit. Et alors qu'il, quand même, dans le doute, il essaie d'avancer petit à petit vers cette oasis. Mais il a tellement cette idée en tête, combien de temps est-ce que je vais rester avant de mourir de soif ? Qu'il se dit, bon, mais après tout, ça c'est un mirage, on est dans le désert, il y a le soleil qui est là, forcément c'est un mirage. Et il est en train de voir une oasis, il y a tout ce qu'il faut au loin, plus il s'approche, plus il voit des arbres fruitiers, avec tout ce qu'il faut, un grand étang d'eau qui pourrait abreuver sa soif. Et plus il s'approche, et plus il entend même le murmure de l'eau qui est en train de couler, et il sent l'odeur des fruits, et il se dit, mais qu'est-ce que la nature est mauvaise quand même, elle est en train de me torturer jusqu'au dernier moment, alors que là je suis sur le point de mourir, elle est en train de me faire croire que c'est un vrai oasis, alors que c'est qu'un mirage. Et puis, le temps passe, je coupe l'histoire là, je saute, je fais un bond dans le futur, et il y a deux bédouins qui arrivent à cette oasis qui existait véritablement, et ils sont en train de voir là un homme qui est mort, étendu par terre, qui se trouve même pas à un mètre de l'eau, même pas à un mètre d'un arbre qui aurait pu le nourrir. Et les deux, ils sont là, et ils regardent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y en a un, en tout cas, qui a dit, comment cela peut-il être possible que cet homme, qui a presque le fruit dans la main, il ait pu mourir de faim, que cet homme qui a presque l'eau dans la bouche, il ait pu mourir de soif. Et l'autre, il lui dit, mais simplement, c'est un homme moderne, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Tout simplement. Et combien de personnes, devant le bonheur que Jésus propose, heureux, 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 devant ce bonheur qui est capable de satisfaire totalement tous les besoins de l'âme, ils sont un peu comme cet homme-là, ils voient quelque chose au loin, mais ils ne sont pas sûrs que c'est vrai. Et dans le doute, au lieu de faire tous leurs efforts, je ne sais pas si j'aurais été à la place de cet homme, même si je me trompais, mais j'aurais couru quand même. Parce que au pire, j'allais mourir. Mais alors, autant mourir dans l'eau, et au moins, je ne serais pas mort. Mais autant faire tous mes efforts, autant mourir d'efforts que de marcher tout doucement. Et de me dire sans cesse, c'est pas ça. Le Seigneur veut nous inviter ce soir à nous approcher tout simplement de son fleuve de vie. Je reviens à ma prédication quand même. Heureux les pauvres en esprit. Le premier moyen que le Seigneur nous a dit pour accéder du moins à ce fleuve de bénédiction qu'il a mis devant nous, ce fleuve qui est là et qui coule continuellement. Peu importe ce que nous pouvons vivre, ce fleuve y coule, c'est une réalité. Le premier moyen qu'il nous a dit pour y accéder, c'est qu'il fallait que nous soyons pauvres. Heureux celui qui est pauvre en esprit. Et quand on regarde précisément ce qu'il est dit, il dit, c'est pas le pauvre comme la pauvre veuve. Vous vous souvenez de cette histoire, la pauvre veuve ? Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre veuve ? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'a fait la pauvre veuve ? Elle a mis deux pièces, ou une pièce, bon, je ne sais plus exactement. Elle a mis quelques pièces, en tout cas, dans un tronc. Et le riche qui l'a suivi, il a mis une grande somme d'argent, lui, en faisant teinter les pièces pour qu'on puisse les compter et savoir qu'il en avait mis un paquet comparé à elle. Et elle était qualifiée de pauvre veuve. Mais le pauvre dont il est question ici, c'est pas quelqu'un qui est pauvre au point de pouvoir donner une offrande, au point de pouvoir donner quelque chose. Le pauvre dont il est question ici, c'est littéralement un mendiant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas la possibilité de donner quoi que ce soit. Quelqu'un qui est totalement dépourvu. C'est-à-dire quelqu'un qui est obligé de dépendre des autres. Un mendiant, c'est quelqu'un qui est obligé de faire la manche pour pouvoir manger, pour pouvoir boire, parce qu'il n'a aucun moyen de lui-même de subsister. Il n'a aucun moyen de fournir ce qu'il a besoin. Il est obligé de dépendre. Et c'est vraiment, si on pouvait mieux traduire ce verset, ça serait « heureux les mendiants en esprit ». Heureux ceux qui sont totalement démunis de toute chose. Heureux sont ceux qui ont cette obligation de dépendre de quelqu'un. Et quand on voit que le Seigneur s'est pris la peine de préciser « heureux les pauvres en esprit », ça nous donne la leçon à nous de savoir qu'il faut qu'on soit dans cette attitude-là. Est-ce qu'on est devant le Seigneur ? Est-ce qu'on est devant notre capacité à nous-mêmes de pouvoir fournir quoi que ce soit ? Est-ce qu'on est pauvre en esprit ? Est-ce qu'on est sans ressources devant Dieu ? Est-ce qu'on est obligé de dépendre de lui ? Est-ce qu'on est obligé de venir dans sa présence pour obtenir quoi que ce soit ? Est-ce qu'on a cette claire compréhension de notre état de comprendre que par nous-mêmes, on ne peut rien faire ? Par nous-mêmes, on ne peut rien apporter. Par nous-mêmes, on ne peut pas abreuver notre âme assoiffée. Est-ce qu'on a cette compréhension qu'on ne mérite rien devant Dieu ? L'opposé, forcément, c'est l'orgueil spirituel. Et on se souvient de ce verset, « Je suis riche, je n'ai besoin de rien. » Et combien de personnes auraient pu, au lieu de prendre ce verset, auraient pu, à la place de Jésus, peut-être les philosophes grecs de l'époque auraient pu dire « Heureux les riches, car le royaume de la terre est à eux. » Combien de personnes vivent dans cette optique ? Encore aujourd'hui, ils sont dans cette compréhension qu'il faut être riche pour posséder vraiment quelque chose sur la terre. Et combien on peut se tromper par rapport à ça ? Deutéronome 8, 17 nous dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Oui, tout ce que nous pouvons posséder, que nous puissions être riches ou pauvres, tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui a permis que nous l'ayons. Voilà pourquoi on n'a pas à nous enorgueillir de tout cela, on n'a pas à compter sur ça pour avoir le bonheur. Le Seigneur nous dit « Heureux, heureux ceux, les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux, c'est à eux. » Et le piège dans lequel on pourrait tomber, c'est d'avoir cette fausse humilité justement. Reconnaître que « oui c'est vrai, je ne peux rien ». Oui, c'est vrai, je ne suis rien par moi-même, je ne peux pas comprendre. Par exemple, je connais des personnes, ils disent souvent ça, je ne suis pas assez intelligent, je ne comprends pas ce que la parole veut me dire, je n'ai pas assez de connaissances, je ne peux pas être nourri. Et du coup, ils s'arrêtent là. Et du coup, ils ne sont pas nourris par la parole. Du coup, ils n'accèdent pas au fleuve de bénédiction de Dieu. Du coup, ils se privent eux-mêmes parce qu'ils ont cette espèce d'attitude de fausse humilité qui fait croire qu'ils sont trop pauvres en esprit pour pouvoir accéder. Or, Jésus nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire qu'il faut avoir cette reconnaissance qu'on est pauvre en esprit, mais il faut avoir cette soif de dépendre de Dieu pour qu'il puisse la combler. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Parce que si on s'arrête en chemin, on est comme cet homme qui est mort devant la source d'eau. Il est mort de soif à côté d'une source d'eau. C'est quelque chose de totalement fou. Comment se présente-t-on devant Dieu ? Est-ce qu'on se présente avec orgueil ? Est-ce qu'on se présente avec nos mérites ? Est-ce qu'on se dit « Seigneur, je mérite ? Seigneur, j'ai jeûné tant de jours ? Seigneur, j'ai fait tant et tant de choses ? J'ai donné tant d'offrandes ?» Ou est-ce qu'on dit « Seigneur, je ne suis rien. Je me présente avec mon péché devant toi. Tu connais mon cœur. » On l'a entendu, le Seigneur y connaît parfaitement ce que nous sommes, nos situations, nos vies. Il connaît tout ce que nous avons pu faire avant. Est-ce qu'on se présente devant le Seigneur avec humilité ? Alors la promesse qui en découle, c'est que le royaume des cieux est à nous. Alors l'accès au fleuve de la bénédiction divine, cet accès, c'est possible. Du moment qu'on arrive devant le Seigneur humblement. Et on se souvient de la prière du pharisien et à côté la prière de celui qui était le publicain, qui était... Il n'osait même pas lever la tête. Vous savez que le mendiant, ça nous parle de cet homme. À l'époque, du moins les mendiants, ils étaient obligés de se couvrir le visage. Aujourd'hui, ils ne le font plus parce qu'il y a une espèce de normalité du fait de mendier. Mais en tout cas, à cette époque-là, tellement on avait honte d'être un mendiant, tellement on avait honte de dépendre de quelqu'un qu'on se couvrait la tête. Et le gars, il sortait juste sa main, il tendait juste sa main, on voyait que sa main qui dépassait, tellement il avait honte. Et est-ce qu'on a cette pauvreté d'esprit, dans ce sens de savoir qu'on a honte de notre état de pécheur, que le péché est là et que c'est quelque chose qui nous pèse. On sait qu'on a une nature humaine, on sait qu'on est petit devant Dieu, on sait qu'on n'est rien. Mais est-ce qu'on a quand même cette main qui se tend vers le Seigneur ? En tout cas, la promesse, elle est pour tous ceux qui sont pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à tous ceux qui ont cette humilité de cœur. Ceux qui sont riches à leurs propres yeux sont pauvres aux yeux de Dieu. Et c'est important que nous ne mesurions pas notre pauvreté avec nos mesures humaines à nous, mais que nous puissions nous mettre tout simplement dans la balance du Seigneur. Et que le Seigneur ne puisse pas nous dire « Je t'ai trouvé léger dans ma balance. Je t'ai trouvé très léger. » Le Seigneur veut que nous soyons pauvres d'esprit afin que nous puissions accéder tout simplement à son fleuve de bénédiction. Deuxième chose qu'il nous dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Celui qui peut accéder justement à ce fleuve de bénédiction, c'est celui qui est pauvre, mais c'est celui qui pleure également. Et il y a encore aujourd'hui, à l'époque il y en avait déjà, mais encore aujourd'hui, il y a des multitudes de raisons de pleurer, vous êtes d'accord ? Il suffit de regarder les informations et on a rapidement un sujet pour lequel on peut pleurer. Mais dans nos vies personnelles aussi, il y a des sujets pour lesquels on peut pleurer. Et la question, ce n'est pas de savoir à quel degré de pleurs il faut pleurer. La question, ce n'est pas de savoir comment l'émotion peut nous saisir et combien de larmes on peut verser. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui nous fait pleurer vraiment. Qu'est-ce qui, ce soir, vous fait pleurer. Quels sont ces sujets qui vous tiennent tellement à cœur que vous versez des larmes dans le secret de vos chambres ? Quels sont ces sujets qui vous font véritablement pleurer ? Pour certains, peut-être, c'est parce qu'ils ont perdu l'argent, ils ont perdu toutes leurs finances, et ils sont là, ils se retrouvent totalement démunis, alors qu'ils avaient une vie de luxe, ils se retrouvent dans la misère. Ça peut être une raison de pleurer. Pour d'autres, c'est peut-être qu'ils ont perdu de leur réputation, ils ont fait un acte répréhensible, ça a été mis au jour, et ils ont perdu tout ce qu'ils... toute leur réputation, alors qu'ils étaient peut-être, je ne sais pas, un docteur très réputé, mais qui a fait une mauvaise chose, qui n'a pas été honnête, et il a perdu sa réputation, et plus personne ne va le voir, il n'a plus de gloire aux yeux des hommes. Et peut-être c'est ça qui le fait pleurer. Peut-être quelqu'un a perdu la santé, et les douleurs sont tellement là dans son corps que ça le fait pleurer. Peut-être que quelqu'un a vécu une relation qui s'est brisée avec telle ou telle personne qu'elle aimait, et elle pleure. Mais Jésus ne parle pas de cela. Dieu promet le bonheur, Dieu nous promet l'accès à ce fleuve de bénédiction, à ceux qui pleurent, mais qui pleurent d'une certaine manière. Les pleurs dont il est question, les affligés dont il est question, ce sont ceux qui passent par le deuil. C'est le même mot, quand quelqu'un passait par le deuil, on disait les affligés, si vous voulez, à cette époque-là. C'est vraiment les personnes qui passent par le deuil, qui ont perdu un être cher, quelqu'un ou quelque chose qui était tellement cher, qu'ils sont obligés de passer par le deuil, et avec tout ce que ça impliquait à l'époque. Et c'est ces pleurs-là, en tout cas, que le Seigneur demande pour que nous puissions accéder à sa bénédiction. Celui qui pleure, justement, à cause de sa pauvreté spirituelle. Il a eu les yeux ouverts sur sa pauvreté spirituelle, mais non seulement il a eu ses yeux ouverts, mais il pleure à cause de cela. Est-ce qu'on est jusqu'à ce point ? Est-ce qu'on arrive à avancer sur le chemin du Seigneur jusqu'à pleurer à cause de notre pauvreté spirituelle ? Il y a celui qui pleure sur son péché, sur la souillure de son âme, sur le fait qu'il est loin de Dieu, qu'il est séparé de la seule personne qu'il aime véritablement, d'un amour pur et puissant. Celui qui pleure sur la mort de Jésus, qui s'est donné à sa place à la croix, à cause de ce péché-là. C'est ces pleurs-là qui font qu'on peut accéder au fleuve de bénédiction. C'est ces pleurs-là qui font qu'on peut être heureux. Et regardez le paradoxe, Dieu promet la joie, le bonheur à celui qui pleure. Mais il faut que nous pleurions avant d'être heureux, avant d'être consolés, comme c'est dit dans ce verset. 2 Corinthiens 7, verset 10 nous dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Et c'est vrai que toutes les larmes que nous pouvons verser pour les choses matérielles ou pour les relations entre les uns et les autres ne produisent finalement rien. Tandis que les pleurs devant Dieu produisent quelque chose parce que ça nous permet d'accéder au bonheur, à la bénédiction que le Seigneur a promis pour l'homme. Et est-ce que vous savez cette image du nouveau-né qui est là, qui vient de naître, et qui a comme les poumons contractés, les poumons bloqués, et vous savez ce que le docteur est obligé de faire pour qu'il puisse respirer, qu'il puisse crier un bon coup? Il est obligé de le taper. Et qu'est-ce que vous diriez de la maman qui dit « Ah non, non, ne faites pas de mal à mon fils, surtout ne le tapez pas. Non, 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 je ne veux pas qu'il souffre. Je ne veux surtout pas qu'il souffre, par pitié. » Et le docteur, il va être obligé de lui dire mais si je ne le fais pas, il va mourir. Il ne pourra pas respirer. Je suis obligé de le taper. Je suis obligé de le faire connaître cette petite souffrance, mais pour qu'il puisse connaître le bonheur de vivre. Le bonheur d'avoir l'oxygène qui vient justement décontracter tous ses poumons et lui donner tout ce dont il a besoin pour respirer. Et le Seigneur, il est obligé de faire pareil avec nous. De temps en temps, il est obligé de nous tapoter pour que nous puissions avoir cette décontracture et que nous puissions respirer spirituellement et véritablement. Et combien nous serions fous de dire « Seigneur, non, surtout pas, je ne veux pas souffrir, Seigneur. Je ne veux surtout pas souffrir. » Alors que c'est que pour notre bien qu'il le fait. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Attention toutefois de ne pas tomber dans le piège de la résignation. Il y a des personnes qui sont tout le temps dans les pleurs, tout le temps dans les larmes, tout le temps dans ce côté négatif, et qui jamais ne sont consolées. Elles sont tout le temps, elles s'arrêtent en chemin encore une fois. Combien c'est dangereux de s'arrêter en chemin. Le Seigneur, il a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il ne faut jamais s'arrêter au milieu. Il ne faut pas se dire « Ah, je suis affligé. Ah, je suis triste. Ah, la vie est trop dure. La vie n'est qu'une vallée de larmes, comme j'entends souvent. » C'est vrai, mais Dieu est capable de transformer la vallée de larmes en une vallée où il y a des champs d'allégresse. Il transforme le deuil en allégresse. Le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est le seul capable de faire quelque chose. Attention à ne pas se repentir sans réparation. Attention à ne pas être sauvé, mais sans sanctification. Attention à ne pas prier, mais sans purifier notre cœur. Ça, c'est quand on s'arrête en chemin. Est-ce que nous pleurons encore sur notre péché? Est-ce que nous sommes tellement parfaits que nous ne péchons plus? Tant mieux. Mais pour tous ceux qui pêchent encore, tous ceux qui arrivent malheureusement de manquer la cible, le Seigneur, il nous dit, il faut que vous pleuriez sur votre péché, mais il faut que vous soyez aussi consolés. La promesse, c'est la consolation de Dieu. Est-ce que encore dans ce monde, on a besoin de consolation? Est-ce qu'encore dans ce monde, on a besoin d'avoir cet apaisement du cœur qui fait que, malgré la douleur, on est capable d'être dans la sérénité? Je crois que oui. Le Seigneur nous parle de consolation, et il nous parle de cela comme d'une personne qui se tient à côté de nous dans l'épreuve, comme d'une personne qui va être à nos côtés quand on traverse le deuil, quand on traverse la perte de quelque chose. Peut-être ça va être la perte de la présence de Dieu dans notre vie, parce qu'on passait du temps avec Dieu et on en passe moins. On a perdu cela. Le Seigneur, il va se tenir à côté de nous comme un consolateur et nous encourager et nous redonner cette consolation, nous redonner cette envie de le chercher. Et la troisième chose, après la pauvreté spirituelle, après les pleurs, celui qui va pouvoir accéder à ce fleuve de bénédiction, c'est celui qui fait preuve de douceur. Je relis le verset 5 avec vous. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » On pourrait traduire plus exactement « Heureux les doux, heureux ceux qui font preuve de douceur, justement. Heureux ceux qui sont pleins de douceur, car ils hériteront la terre. » Et quand on pense à quelqu'un plein de douceur, plein de patience, la Bible en tout cas nous fait l'éloge de Moïse, qui était un homme extrêmement patient, où il y a d'autres versions qui disent un homme extrêmement doux. Et pourtant, quand on regarde l'histoire de Moïse, il n'a pas l'air d'être tellement doux aux yeux du monde. Parce que quand on le voit, ce Moïse-là, qui était peut-être timide, qui avait du mal à parler, mais quand on le voit arriver avec un certain aplomb, avec son frère Aaron, devant le pharaon de l'époque, et qui lui dit « Laisse sortir mon peuple !» Bon, je le dis de la part de Dieu, mais laisse sortir mon peuple quand même. Est-ce que là, il faisait preuve de douceur? Est-ce que quand on le voit redescendre de la montagne et qu'il vient de voir le peuple d'Israël qui s'est fait un veau d'or, il vient de voir toutes sortes de choses horribles, et de colère, il casse les tables de la loi. Est-ce que c'était un homme doux? Et pourtant, la Bible nous dit qu'il était doux et patient. Parce qu'on n'a pas la notion de douceur. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas cette notion de douceur dont la Bible parle. Cette notion de bonheur, débonnaire, ça veut dire quelqu'un qui était de bonne air, c'est-à-dire de bonne souche. Quelqu'un, à l'époque, ça voulait dire quelqu'un qui était noble, mais ça s'est transformé en quelqu'un qui était noble dans son cœur, qui avait un bon fond, quoi, si vous voulez, mais quelque chose de force. Et en fait, les Grecs, à l'époque, utilisaient ce mot, utilisaient le fait que quelqu'un était doux, qu'un animal plutôt était doux, une fois qu'il avait été apprivoisé. Vous savez, quand ils allaient à la guerre, ils avaient des chevaux, mais le cheval qui n'était pas apprivoisé, à la guerre, il n'aurait pas servi à grand-chose. Il serait parti dans tous les sens. À la limite, il fallait mieux qu'il soit dans le camp des ennemis, quoi, c'est tout. Mais dans notre camp, il ne servait à rien. Alors, ils étaient obligés d'apprivoiser les chevaux. Ils étaient obligés de les faire passer par toutes sortes d'étapes pour que les chevaux soient doux. Pour que les chevaux soient, on pourrait dire, débonnaires, pour l'intégrer à notre texte. Les chevaux devaient être doux, et une fois qu'ils étaient doux, ils étaient apprivoisés. Et est-ce que ça voulait dire qu'ils manquaient de force? Est-ce que ça voulait dire qu'ils ne servaient plus à rien? Parce que souvent, on croit que la douceur, c'est une sorte de faiblesse, on est mou face à toutes les choses qui arrivent, on ne dit rien, on a peur de ne pas trop vexer les gens, il ne faut pas trop rien dire, quoi que ce soit. Le cheval, quand il était apprivoisé, il était canalisé dans sa force. Là, sa force, maintenant, allait servir à soit tirer des chars, soit porter des personnes, toutes sortes de choses qui étaient possibles à cause de sa douceur et qui n'auraient pas été possibles sinon. La douceur, c'est le contraire de la violence et de la vengeance. La douceur, ça implique une soumission. Pour nous, ça implique une soumission à Dieu, mais pas cette soumission passive. Ça implique une soumission active qui va dire que, sans hésitation, je vais faire ce que le Seigneur me demande et surtout, je ne vais pas murmurer et je ne vais pas contester tout ce qu'il va me demander. C'est ça la douceur dont il est question là. La douceur, ce n'est pas la lâcheté, la mollesse, comme je disais. Ce n'est pas le manque de conviction, ce n'est pas la complaisance, la timidité. Ce n'est pas toutes ces choses. Vous savez comment le décrivaient les Grecs la douceur à l'époque? Vous savez que le Nouveau Testament, il est écrit en grec. Et c'est pour ça le terme qui est employé, quand il est question de douceur, les Grecs, ils décrivaient la douceur comme la puissance sous contrôle. Comme le fait d'avoir cette puissance, le fait d'avoir cette capacité, cette force, mais sous contrôle, parfaitement contrôlée. Et voilà pourquoi Moïse était un homme doux. Et voilà la douceur que le Seigneur demande à ses enfants. Cette faculté de reconnaître sa puissance, qui vient du Seigneur, bien sûr, mais qui est parfaitement contrôlé. Et on voit Jésus, à un moment donné, quand il voit le temple rempli de toutes sortes de commerces, de gens qui vendent des pigeons, des animaux, Jésus, il a une sainte colère. Il a une sainte colère, il est indigné, mais c'est la manifestation de sa douceur, justement, de sa puissance. Sa colère s'est exprimée au meilleur moment. Et d'ailleurs, il décrivait la douceur comme ça, comme le fait de se mettre en colère au meilleur moment. De ne pas se mettre en colère quand il ne faut pas, et de se mettre en colère quand il faut. Pas se mettre en colère quand c'est nous qui souffrons parce que nous sommes faibles ou parce que nous sommes persécutés. Ça, c'est à la limite, c'est quelque chose de normal, une souffrance normale, mais c'est se mettre en colère face à des choses qui ne devraient pas arriver. Jésus, quand il a vu le temple rempli de toutes ces choses, il s'est mis en colère. Moïse, quand il a vu le peuple faire un veau d'or, il s'est mis en colère. Mais c'est une expression, la puissance sous contrôle, le Saint-Esprit qui est là et qui s'indigne, une sainte indignation devant ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les pierres, il a brûlé, il a fait toutes sortes de choses, et il y a eu le jugement de Dieu qui est tombé. Mais tout ça s'exprime par la douceur. Et le Seigneur nous dit encore ce soir, « Heureux ceux qui font preuve de douceur, car ils hériteront la terre. » Est-ce que nous sommes, ce soir, doux, patients, quelle que soit la situation? Est-ce que nous arrivons à nous mettre en colère que quand il faut se mettre en colère pour les choses de Dieu, bien sûr? Parce que quand ils se mettent en colère, c'était pas pour les choses qui les intéressaient. Est-ce que vous êtes comme moi et vous dites, Seigneur, il y a du travail encore? Est-ce qu'au contraire, on n'est pas plutôt tendance à nous emporter souvent, à être peut-être insoumis ou rebelles au Seigneur? Est-ce qu'on n'a pas justement soit cette envie de vengeance ou de violence, ou alors l'inverse, on est mou et on a ce manque de conviction dans le Seigneur? En tout cas, le Seigneur nous invite ce soir, il nous invite toujours d'ailleurs, à faire preuve de douceur. Et la promesse qui est accompagnée de cela, la promesse qui coule dans ce fleuve de bénédiction, c'est que heureux ceux qui font preuve de douceur, car ils hériteront la terre. Et pour terminer, je voudrais juste parler de cet homme à qui on a posé la question « Combien il faut posséder d'argent pour en avoir suffisamment ?» Et vous savez, cet homme, c'était un homme très 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 riche, un des plus riches de la terre d'ailleurs. Je ne sais pas combien il était sur le top 10, je ne sais pas s'il y était d'ailleurs, mais en tout cas, il me semble qu'il y était. Cet homme à qui on a posé cette question, combien il faut posséder d'argent pour en avoir suffisamment? Et cet homme, il a dit, il en faut juste un peu plus. Voilà sa définition de combien c'était assez. Assez d'argent, c'est toujours plus. Il m'en faut toujours plus. Et finalement, lui qui possédait beaucoup de choses, lui qui avait tellement de choses, finalement, il ne possédait véritablement rien. Parce qu'il voulait toujours plus, il n'était jamais satisfait. Et finalement, ce sont plutôt ses richesses qui le possédaient à lui. Il était possédé par ses richesses. Non pas qu'il avait le démon de la richesse, mais c'est ce désir de toujours avoir plus et plus et plus encore. C'était ça qui contrôlait sa vie. Et la différence dans le fleuve de bénédiction que Dieu propose à l'homme, dans ce bonheur qui vient directement des sources divines, c'est que quand on est sauvé, quand on a cette joie du salut, eh bien alors tout ce que nous possédons, le peu que nous possédons, prend toute sa valeur. Si nous avons une famille, eh bien Dieu nous donne un amour particulier pour notre famille. Si nous marchons dans la forêt, Dieu nous donne cette compréhension que la nature tout entière crie et loue le Créateur. Et nous avons cette compréhension d'être totalement satisfait dans tout ce que nous avons. Le fait d'être sauvé redonne du goût à tout ce que nous pouvons vivre. Les situations que nous pouvons vivre, les bonnes situations, les petits moments. Je prends cet exemple quand je serre mes enfants dans mes bras. Et combien c'est bon de le faire en pensant que mon Créateur aussi m'a un jour serré dans ses bras. Un jour, il m'a manifesté cet amour de Père. Et que maintenant, je peux être appelé son enfant parce que j'ai cru en son Fils Jésus. Combien, dans chaque aspect de nos vies, même si nous ne possédons pas grand-chose, le Seigneur nous donne d'être entièrement satisfait. C'est pour cela qu'on peut hériter la terre. Et non seulement on hérite la terre en ce moment, dans ce sens qu'on possède toute chose, parce que nous possédons le Seigneur Jésus, dans ce sens que nous avons cru en lui, mais un jour, le Seigneur nous a fait la promesse d'être avec lui dans son ciel de gloire. Et nous aurons une place à côté, près de notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà tout ce que nous possédons. Et ce soir, la question que je pose, tout simplement, est-ce que vous possédez l'essentiel? Peut-être que vous possédez déjà l'argent, peut-être que vous possédez beaucoup de choses, beaucoup de qualités. Est-ce que vous possédez l'essentiel? Est-ce que vous possédez cette conviction que le Seigneur Jésus vous a sauvé, tout simplement? Est-ce que vous avez foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez encore dans cette soirée accéder à ce fleuve de bénédiction? Et on pourrait continuer. Vous avez vu qu'il y a 8, voire 9 heureux. Mais déjà, au bout de 3 heureux, est-ce que ça ne nous remet pas assez en question nous-mêmes ce soir? Déjà, un seul heureux est capable de nous bousculer dans nos convictions. Et est-ce qu'on est devant le Seigneur dans cet état de pauvreté spirituelle, de dire constamment « Seigneur, je suis pauvre, j'ai besoin de toi ». Encore ce soir, même malgré toute ma connaissance, malgré toutes les connaissances théologiques que j'ai de toi, « Seigneur, je suis pauvre spirituellement, j'ai besoin que tu viennes ». Je suis comme un mendiant devant toi. Est-ce qu'on n'est pas de ces personnes qui pleurent peut-être pour une raison ou pour une autre, mais qui pleurent peut-être à cause de leur péché, à cause du fait qu'ils sont loin de Dieu par tel ou tel comportement? Seigneur, pardonne mon péché. Je veux venir devant toi et te demander pardon, Seigneur. Est-ce qu'on n'est pas ce genre de personnes qui ont besoin d'être remplies de douceur, alors que nous puissions laisser le Seigneur parler à notre cœur, tout simplement dans cette soirée? Jésus, nous voulons encore te dire merci parce que tu nous promets non pas toutes sortes de commandements et d'ordres, Seigneur, mais tu nous promets d'être tout simplement heureux alors que ce monde passe par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de choses qui font que les gens courent après le bonheur sans le trouver. Seigneur, toi, tu nous promets d'obtenir le vrai bonheur. À cette condition près qu'il nous faut tout simplement approcher à ce fleuve de bénédiction. Et il faut donc correspondre à cette liste que tu nous as dressée, Seigneur. Et combien nous désirons dans ces moments que tu puisses nous aider à vivre ces choses, tout simplement. Oui, tu as dit « Heureux les pauvres en esprit », que tu puisses nous aider à être ces pauvres en esprit, afin d'accéder à ces promesses, que tu puisses nous aider à être de ces personnes qui pleurent devant toi, qui pleurent dans ta présence, qui pleurent peut-être pour les personnes que nous désirons, qui se tournent vers toi et qui sont autour de nous. Tu connais les larmes que nous versons dans notre chambre, dans notre lieu secret, tu connais toutes ces larmes que nous versons, peut-être pour le salut des personnes que nous aimons, Seigneur. Tu connais toutes ces choses. Tu connais aussi pourquoi nous te demandons d'avoir cette douceur. Nous te demandons que ton esprit travaille en nous pour que nous soyons remplis de tout ce fruit de douceur, Seigneur, cette maîtrise de nous-mêmes, que nous puissions manifester cette douceur devant les hommes pour te glorifier, Seigneur. Tu vois combien peut-être il est plus facile de remarquer notre péché à nous-mêmes, combien c'est plus difficile quand les autres viennent nous montrer notre péché. Seigneur, combien nous avons encore besoin de toi pour avoir cette douceur malgré cela, pour avoir cette puissance de nous soumettre devant ce qu'on peut nous dire, devant les corrections qu'on peut nous apporter, afin que nous puissions être quelqu'un qui manifeste ta gloire, tout simplement. Oui, Seigneur, toi tu nous as montré cette douceur en mourant à la croix, en ne disant pas un mot, en ne te défendant pas. Tout cela pour montrer combien tu nous aimais, Jésus. Nous voulons, Seigneur, dans cette soirée, que ton fleuve de bénédiction qui coule abondamment soit accessible à nos cœurs, Seigneur. Que nous voulons avoir la bonne disposition, la bonne attitude qui va permettre d'y accéder. Alors aide-nous, corrige-nous, reprends-nous encore dans cette soirée, Seigneur. Montre-nous quel endroit nous avons besoin de nous humilier afin que nous puissions avancer un peu plus dans ce fleuve de bénédiction. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.